Quels sont-ils? Pour en savoir plus, voici Charles Tanguay de l'Office de protection du consommateur.
Avez-vous un animal de compagnie? Si vous répondez oui, ben vous savez à quel point on les aime, puis on les aime, puis à peu près nos chats, nos chiens, assez que s'ils ont des problèmes à un moment donné de santé, on est souvent prêt à dépenser un bon montant d'argent, même dire une fortune pour les soigner. Mais dans le cas où c'est un animal que vous venez d'acheter et qui tombe malade, est-ce qu'il est garanti? On en parle, c'est de ce quoi on parle ce matin avec Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur. Bonjour Charles.
Bonjour Anne.
Charles, quand un consommateur s'achète un chat, un chien, un oiseau, peu importe, est-ce qu'il y a une garantie?
Oui, certainement, oui. Je vais ouvrir une petite parenthèse. D'abord, on se souvient qu'en 2015, le gouvernement du Québec a adopté une loi pour modifier le Code civil pour qu'on traite mieux les animaux, qu'on les respecte comme des êtres vivants. Donc, le Code civil reconnaît désormais que l'animal est un être doué de sensibilité et ayant des impératifs biologiques. Alors, on va y revenir. Malgré ça, vous allez trouver ça peut-être drôle un peu, l'animal est considéré comme un bien aux yeux de la loi, comme un bien de consommation, comme les autres au chapitre de la loi sur la protection du consommateur. Ça veut dire que les dispositions qui concernent les garanties sur un bien s'appliquent aussi à un animal. Par contre, il faut préciser qu'ici, on parle d'un animal acheté auprès d'un commerçant. Alors, une animalerie, un chenil, un refuge, un éleveur d'animaux, ça ne s'applique pas si vous avez acheté d'un particulier, par exemple, si vous l'avez acheté dans une annonce classée.
Etc. Vous parlez de disposition de la loi, ça consiste en quoi au juste?
Alors, essentiellement, ça peut paraître bizarre d'entendre ça quand on parle d'un animal, mais la loi dit qu'il doit avoir une durée raisonnable. Et il doit être exempt de vices cachés, bon, exactement comme n'importe quel autre bien de consommation qu'on achète d'un commerçant.
En d'autres mots, l'animal ne doit pas être malade et encore moins mourir.
Oui, exactement. Donc, il doit normalement être en bonne santé pendant un certain temps. Combien de temps? Ben ça, c'est toujours difficile à dire. Ce sont les tribunaux qui, ultimement, le détermine selon les circonstances, mais c'est sûr que si votre animal est malade seulement quelques jours ou quelques semaines après l'achat, vous pouvez envisager un recours. C'est souvent le diagnostic du vétérinaire qui va être déterminant. Okay. S'il peut identifier une maladie, il pourra probablement aussi dire si, à son avis, la maladie était déjà présente lorsque le consommateur a acheté l'animal. Donc, c'est un facteur assez important pour établir la responsabilité du commerçant.
Bon, si je vous suis bien ce matin, dans le cas où mon chat semble malade, une semaine après que je l'ai acheté, je vais chez le vétérinaire, c'est la première chose à faire?
Non, pas tout à fait. On a toujours l'obligation légale d'aviser le commerçant du problème avant d'entreprendre des démarches.
Bon, OK.
Si vous voulez préserver vos chances de succès dans un recours, vous devez lui donner une chance de corriger le problème par lui-même. Un vendeur d'animaux pourrait, par exemple, avoir une entente chez un vétérinaire spécifique. Donc, il va vous demander de l'amener chez ce vétérinaire-là en question. Un autre pourrait vous dire, écoutez, ramenez-moi le chat, je vais vous en donner un autre. Alors, il peut y avoir plusieurs situations. En supposant qu'un chaton ou un chiot tombe malade quelques jours ou quelques semaines après l'avoir acheté, d'un commerçant toujours, le consommateur doit d'abord mettre en demeure le commerçant de lui donner un délai raisonnable pour réagir. Bon, comme il s'agit d'une maladie, c'est sûr que le délai peut être court. Ça peut être 24 heures ou même moins. Puis en cas d'urgence ou en cas de refus catégorique du commerçant, on pourrait sauter l'étape de la mise en demeure, mais on pourrait devoir à ce moment-là faire la preuve qu'il y avait une urgence ou encore que le commerçant voulait rien savoir. Et puis, si le commerçant ignore la mise en demeure, vous pourriez le tenir responsable de tous les dommages subis. Ça pourrait être, par exemple, lui réclamer les frais de vétérinaire, pour autant qu'ils soient raisonnables, compte tenu du prix d'achat de l'animal. Bon, par exemple, un tribunal pourrait trouver que des frais de 1 000 de vétérinaire, c'est peut-être exagéré pour un chiot qu'on a payé 200 $. Okay. Alors, à l'inverse, j'ai vu un jugement où il était question dans le contrat de vente d'un chaton que l'animalerie limitait sa responsabilité au prix payé pour l'animal, c'est-à-dire 34,50 $. Et on s'entend qu'en général, une facture de vétérinaire, ça dépasse facilement la trentaine de $. Donc, le juge, dans ce cas-là, a balayé la clause du contrat en disant qu'elle était abusive et sans effet.
C'est ça.
Et puis, si on ne parvient pas à s'entendre avec le commerçant, l'étape suivante, c'est d'aller devant la division des petites créances de la Cour du Québec. Mmh. Chaque cas est évalué par le tribunal en fonction des circonstances, de la preuve qui est présentée. Donc, c'est vous, le consommateur, qui aurez à faire cette preuve-là. Okay. L'opinion du vétérinaire sera importante, entre autres, parce que la condition qui explique la maladie est existante au moment de l'achat. c'est quoi la durée raisonnable pour ce type de chien-là ou ce type de chien-là, et puis par rapport au prix aussi. Ouais. Et est-ce que le consommateur a commis des fautes ou des négligences? C'est sûr que si vous ne le nourrissez pas, c'est peut-être de votre faute s'il est malade.
Oui, c'est ça. En supposant, Charles, disons que l'animal qu'on vient d'acheter avait une maladie grave et qu'on a été obligé de le faire euthanasier, quel genre de compensation il est raisonnable d'espérer dans une telle chose?
Alors, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil sur le site jugement.qc.ca, jugement au pluriel.
Okay.
On fait une recherche à la division des petites créances avec le mot-clé animalerie ou chien ou chat, par exemple. Alors, la lecture des jugements, c'est très instructif. Par exemple, lorsque la responsabilité de l'animalerie est prouvée, le consommateur peut s'attendre à se faire rembourser le prix payé pour l'animal, les accessoires qu'il a achetés, s'il y a lieu, des frais raisonnables de vétérinaire, s'il a dû en consulter un, peut-être même les frais d'euthanasie. Mm-hmm. Il peut aussi demander des dommages, par exemple, si la personne avait un chat et que le nouveau chat acheté était contagieux.
Qui a rendu l'autre malade.
La personne pourrait être dédommagée pour ça. Puis, on voit aussi dans les jugements que il y a des demandes qui sont faites pour des dommages moraux, c'est-à-dire les troubles, la peine qu'on a eue de la perte d'un animal. Et c'est là que le changement au code civil dont on parlait tantôt peut avoir un effet. C'est que l'animal est considéré comme un être doué de sensibilité. Donc, ça peut jouer dans l'appréciation du juge des dommages qui découlent à cause de la peine qu'on a eue. On perd pas un appareil électroménager, on perd un être vivant. Donc, on le voit dans les jugements qu'il y a des détails autour de ça qui vont compter dans l'appréciation du tribunal. Et quand on vit ce problème-là, ben lire les jugements, ça peut être instructif. Ça nous aide à voir comment on peut préparer sa cause et quoi demander aussi.
Si on vit ce genre de problème, évidemment. Il semble qu'avec la pandémie, beaucoup de gens veulent briser leur isolement en se procurant un animal de compagnie. Est-ce qu'il y a des mises en garde particulières à faire?
Ah oui, ben c'est peut-être moins le cas en ce moment, mais au début de la pandémie, c'était très évident.
Ouais.
Effectivement, il y a des gens qui profitaient de la situation. Il y avait beaucoup de demandes pour les animaux et ça se voyait sur les petites annonces. Alors, on peut voir une annonce sur Facebook ou ailleurs. On pense qu'il s'agit d'un éleveur ou simplement d'un particulier qui vend un bel animal. Il y a des belles photos. Le prix est intéressant.
Oui.
On se renseigne et puis là, on nous dit que l'animal est disponible, mais qu'il faut verser un dépôt pour le réserver.
Non.
Et là, ben, on vous demande un bon montant par virement bancaire. Alors, faut toujours se méfier. Parfois, tout ça est faux. Il n'y a pas d'animal. Il n'y a pas rien du tout.
Mm-hmm.
Et là, le vendeur est un escroc, bien sûr. Donc, on n'arrivera plus à le joindre un coup qu'on aura versé l'argent. Puis, on risque de pas jamais revoir la couleur de son argent. Donc, faut jamais envoyer d'argent par virement avant d'avoir vu le vendeur, avant vu l'animal en chair et en os. Et puis, quand on est victime de ce genre d'escroquerie, ben, faut porter plainte à la police.
C'est ça. Et c'est pas recommandé de faire l'achat d'animal de compagnie sur Kijiji et compagnie.
Ben, ça peut l'être, là, mais faut le voir avant
c'est
de payer.
C'est ça. Faut faire sûr. En terminant, Charles, si on a un recours en garantie à exercer au sujet d'un animal vendu par un commerçant, on peut communiquer avec un agent de l'OPC.
Oui, tout à fait. Alors, le numéro sans frais pour nous rejoindre, c'est le 1-888-672-2556. Vous faites le 1 pour parler à un de nos agents. Il y a des renseignements, bien sûr, aussi sur notre site web, opc.gouv.qc.ca.
Merci pour ces renseignements. Passez un beau week-end.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Merci. Bye-bye.
C'était la chronique de l'Office de protection du consommateur avec l'expert Charles Tanguay.
À le matin.